Bonjour et merci d'être venus très nombreux pour cette table ronde autour des livres de Nicole Bacharan, politologue spécialiste des États-Unis, qui a écrit La plus résistante de toutes aux éditions Stock, le très beau roman consacré à sa mère. Pascal Bresson, scénariste de bande dessinée, illustrateur et auteur de livres pour la jeunesse, qui publie le roman graphique Simone Veil et ses sœurs aux éditions La Boîte à Bulles. Et Julie Héraclès, qui a écrit un premier roman qui a fait couler beaucoup d'encre, Vous ne connaissez rien de moi, aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors bonjour Nicole Bacharan, vous êtes politologue, vous avez écrit de nombreux essais, des romans de la série Nemo, et vous publiez par contre votre premier roman, La plus résistante de toutes, aux éditions Stock. Alors ce livre est bouleversant, c'est une déclaration d'amour à votre mère, donc vous dites que vous n'auriez pas pu avoir meilleure mère qu'elle.
Absolument. Bonjour à tous et merci d'être là et d'être nombreux et de venir nous écouter. C'est vrai que bon, c'est écrit comme un roman, mais c'est un récit où tout est vrai, à la fois par les souvenirs de ce que ma mère m'avait raconté, par les recherches historiques que j'ai pu faire. Donc je raconte son histoire de très jeune résistante entre 42 et 44. Et ça a été aussi pour moi un fil de découverte, en fait, sur des choses de ma mère que j'avais pas bien comprises quand j'étais plus jeune. Et j'ai eu une chance immense, j'ai eu une mère merveilleuse. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'on a eu une relation parfaite, sans vagues. Voilà, j'étais une adolescente pénible, comme on est beaucoup à l'avoir été. Mais à l'arrivée, je me dis que j'ai eu une chance extraordinaire d'avoir cette mère-là. Et c'est vrai que ce récit, c'est aussi un hommage que je cherche à lui rendre, en tout cas.
Donc le roman commence par une histoire d'amour. Ginette a 18 ans. Elle travaille à Toulouse chez un fourreur. Elle tombe amoureuse d'un garçon solaire, Jean Ambermann. Il est juif. Et c'est pour lui, et parce qu'elle est... elle voit des injustices autour d'elle, qu'elle s'engage si jeune dans la lutte contre l'occupant.
Exactement, parce qu'en fait, en écrivant ce livre, je me suis posé la question, je crois qu'on se pose tous, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, et pourquoi elle a fait le bon choix. C'était une jeune fille de 18 ans qui venait d'un milieu très simple, qui n'avait pas accès à des informations secrètes ou autres, et en la suivant à travers tout ce qu'elle a vécu, je me suis rendu compte que, d'une part, elle était entrée dans la résistance sans l'avoir décidé, juste par des actes spontanés, face à des choix immédiats. Et notamment, donc, elle était très amoureuse de ce garçon magnifique, Jean Ambermann. Elle lui a sauvé la vie. Elle a caché des amis de ses amis. Elle a aidé à cacher le petit frère, la petite sœur dans un couvent. Vous savez qu'il y avait des religieuses dans la région de Toulouse en particulier qui ont abrité beaucoup d'enfants juifs. Et c'est comme ça que ma mère est devenue résistante, non pas en se disant un matin « je vais être une résistante », mais parce qu'on lui a dit « écoute, il y a X ou Y qui cherche un endroit où dormir cette nuit parce qu'on parle de rafle dans Toulouse ». Et il ou elle préfère ne pas rentrer chez elle. Et elle a dit, bien sûr, qu'ils viennent dormir à la maison. Et c'est vrai que cette période entre 42 et 44, c'est une période où l'occupation s'est énormément durcie. Et à un moment, donc, Ginette, ma maman, est entrée vraiment dans un réseau de résistance comme courrier. Et elle a finalement été arrêtée, comme c'était généralement le cas de ces jeunes courriers.
Oui, donc elle va prendre le pseudonyme de Marie-Claude dans la résistance, elle va prendre de gros risques et elle va partir à Marseille où elle va être arrêtée.
Voilà, elle était courrier dans toute la région sud, elle était dans ce qu'on appelait l'interrégion, c'est-à-dire qu'elle apportait des lettres, des missives, des ordres, des renseignements d'un QG de la résistance à l'autre, d'une boîte à lettres, comme on le disait, à l'autre, puisqu'on ne pouvait pas utiliser la poste où les lettres pouvaient être ouvertes. Pas le téléphone qui pouvait être écouté. Donc ces jeunes filles, on a vu beaucoup de photos, beaucoup de récits, beaucoup de films aussi. On voit ces jeunes filles très jeunes, en vélo, souvent avec quelque chose encore très enfantin. Donc elles ne suscitaient pas trop la méfiance. En réalité, elles prenaient des risques énormes. Et c'est vrai qu'au printemps 44, Ma mère a entendu dire dans un des QG de la Résistance où elle passait, oh, en ce moment c'est extrêmement dur, les courriers ne durent pas plus de 3 mois. Et c'est vrai qu'elle, en tant que courrier, elle a duré 4 mois et demi, je crois. Elle a été arrêtée par la Gestapo de Marseille. Et là, elle a vécu des heures extrêmement, extrêmement dures.
Et c'est là que cette jeune fille de 17 ans, dont vous restituez parfaitement la légèreté, la tendresse, la beauté, elle est confrontée quand même à un terrible tortionnaire qui est le chef de la Gestapo locale. Et elle lui tient tête.
Moi, j'ai été stupéfaite, en fait, en écrivant le livre. Ça... Parce que ma mère m'avait parlé de cette arrestation et elle m'avait parlé de ce qu'elle lui avait dit et de ce qu'il lui avait demandé et de réflexions qu'il avait eues. Donc c'était Delage, le patron de la Gestapo de Marseille, qui était un type épouvantable, vraiment un véritable tortionnaire. Mais elle m'avait jamais dit ce qu'elle avait souffert. Elle m'avait jamais dit qu'on avait touché un cheveu de sa tête, en quelque sorte. Mais ce qu'elle m'avait dit de leur échange, en quelque sorte... Je me suis aperçue que tout était gravé dans ma tête. Mais vraiment, j'avais rien oublié au mot près. Et notamment quelque chose de stupéfiant, où bon, d'abord, dans un premier temps, elle essaye de le convaincre qu'elle ne sait rien, qu'elle est une petite gourde, en quelque sorte, qui n'a rien à voir avec la résistance. Et puis après, elle essaye de le retourner, parce qu'on est quand même à l'été 44. Et elle lui dit cette phrase qui me semblait normale, quand on, je sais pas, je devais avoir 16 ou 17 ans, quand ma mère me l'a dit, et qui en l'écrivant, je me suis dit, mais c'est dingue, mais c'est absolument fou. Elle lui dit, mais enfin, vous savez bien que l'Allemagne a perdu la guerre, à un SS en uniforme qui lui fait face et qui l'interroge. Et l'autre, autant, au lieu de, à ce moment-là, de se mettre en fureur, lui dit, mais vous êtes complètement stupide, il parlait parfaitement le français. Vous n'avez rien compris, vous et votre résistance. Les alliances vont se retourner et ça va être les Anglo-Américains et les Allemands contre les bolcheviks. Mais c'est vrai que Ginette, donc ma mère, m'a rapporté ces échanges absolument incroyables où elle tient tête à ce gestapiste et elle ne lui dira rien. D'où le titre du livre qui vient d'un rapport de la Gestapo, en fait. Voilà ce qui a été dit sur elle dans ce dossier-là.
Oui, d'ailleurs, tous ces détails qui concernent une jeune femme finalement assez anonyme, ils étaient consignés dans les dossiers de la Gestapo. Vous les avez retrouvés dans les archives, vous avez fait un travail d'historienne et vous avez donc découvert qu'il y avait beaucoup d'éléments sur une jeune femme qui pourtant n'était pas connue, n'était pas à la tête d'un réseau, n'était pas voilà, une résistante. Voilà.
En fait, moi, je suis partie... Des éléments que m'avait raconté ma mère, des éléments que m'avait raconté mon oncle, son jeune frère, qui était un petit peu la mémoire de la famille, et que quand il était âgé, puisque ma mère, elle n'a pas vécu âgée, mon oncle, donc je l'ai interrogé, je l'ai enregistré, je lui ai posé pas mal de questions, et je savais donc un certain nombre de faits, d'événements, de lieux auxquels elle avait été mêlée, et j'ai pris ces éléments-là. Et je me suis plongée avec ça dans les archives de la région toulousaine, dans les archives de la région de Marseille. Et c'était comme, si vous voulez, une grande toile où je pouvais poser à tel élément, tel autre. Elle était là à tel moment, il se passait ceci, il se passait cela. Mais je ne m'attendais pas à trouver son nom, puisque elle n'est pas devenue une personne célèbre. Je ne m'attendais certainement pas à retrouver son nom dans les archives de la Gestapo, qui sont conservées en France, puisque... Il s'agit de rapports que la Gestapo n'a pas eu le temps de détruire au moment de la libération et de l'avancée des Alliés. Ces gens-là étaient encore très organisés. Ils envoyaient des rapports à Berlin sur leurs exactions et leurs opérations de répression. Donc c'est comme ça que j'ai retrouvé énormément de détails sur ce qu'avait vécu une petite jeune fille nommée Ginette Guy et qui n'est pas devenue un personnage historique. Et sur l'autre pan de cette histoire, qui est cette histoire d'amour, qui est quand même restée la grande histoire d'amour de ma maman, même s'il n'est pas devenu mon père, c'est incroyable, mais aux Archives nationales à Paris, pour le coup, vous avez tout le dossier de la famille Obermann, comment ils sont arrivés de Pologne, comment ils ont obtenu leur naturalisation avec toutes les étapes. Il fallait prouver qu'on était de bonne moralité, qu'on payait ses impôts, etc., etc. L'arrestation de Jean, puisqu'il a été arrêté, à quel moment il est sorti de prison. Enfin, c'est inimaginable ce qu'on retrouve dans les archives. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. C'est vraiment des trésors.
Et cette relation, d'ailleurs, avec Jean Obermann, dont elle est très, très amoureuse, elle irradie le livre. Vous dites d'ailleurs, c'est très étrange, un sentiment très étrange et très tendre que de raconter le grand amour de sa mère. Et là, vous le racontez vraiment très bien. On est avec ses doutes, son émotion, ses doutes, parce que c'est pas un type très, très...
Il était très beau,
oui.
Il était très brillant, il était très drôle, il était très un tas de choses et pas un tas de choses non plus. Et c'est vrai que je crois que, vraiment, en me replongeant là-dedans, d'abord, ma mère et moi, on était très fusionnels. Donc, c'était pas compliqué pour moi de la ressentir, si j'ose dire, à 18 ans. Mais je comprends très bien pourquoi ils n'ont pas passé leur vie ensemble. Et en même temps, ils ont passé 2 ans ensemble, ce qui est entre 18 et 20 ans. Enfin, c'est énorme. En pleine guerre, avec toute l'intensité. C'est ce qu'elle me disait, c'est tellement intense quand tu sais que tu peux mourir demain, en quelque sorte. Et je suis heureuse que ça vous touche comme une histoire d'amour vivante. C'est une histoire d'amour très très forte entre des adolescents. Je me souviens que maman, quand elle m'en parlait, elle n'en parlait pas quand mon père était là, pour des raisons que vous pouvez imaginer, mais elle me disait, tu sais, j'avais 18 ans et lui avait 19 ans et demi, et je trouvais que c'était tellement mignon. À mon âge, ça n'a aucune importance, le demi, mais à leur âge, c'était quelque chose.
Alors, il y a une chose dont vous n'avez jamais parlé avec votre mère, c'est que cette jeune fille de 17 ans, charmante, qu'on apprend à vraiment beaucoup aimer au cours du livre, elle va être torturée. Et ça, votre mère n'en a jamais parlé, ou vous étiez peut-être, vous, dans le déni d'entendre quelque chose de trop dur.
Oui, et ça a été quand même un voyage intérieur d'affronter ça pour moi. C'est vrai que ma mère m'avait donné pas mal d'éléments sur ce qu'elle avait vécu, sur cette période de résistance, sur cette période de l'arrestation, sur ce qu'était ce Delage, qui était le patron de la Gestapo, qui était l'équivalent marseillais, région sud en entier d'ailleurs, de Klaus Barbie à Lyon. Ils ont d'ailleurs coopéré ensemble pour l'arrestation de Jean Moulin, enfin rien que du beau monde. Et elle ne m'a jamais dit un mot de ce qu'on avait pu lui faire. Et je ne lui ai jamais rien demandé, jamais. Mais c'est pas comme si, en l'écoutant, je m'étais dit, je vais pas lui demander. Non, c'était bien au-delà de ça. Je l'ai jamais envisagé. J'étais dans un déni psychologique, je pense, total, incapable d'imaginer qu'on ait pu lui faire du mal. Et c'est bien, bien, bien après sa mort que j'ai commencé à accepter de regarder en face. Et le mot final m'a été donné dans ce rapport de la Gestapo.
Oui, votre mère, vous avez compris d'ailleurs, à partir de ça, certains traits de son caractère. Hein.
Oui. Oui, c'est vrai. Je peux en parler maintenant parce que voilà, tous les témoins de cette histoire ont disparu, et mon père également. Je n'aurais pas écrit ce livre s'il avait été là. Je n'ai aucune raison de vouloir le blesser. Mais c'est vrai que le couple de mes parents n'était pas très heureux, et que ma mère, moralement, moi je l'ai vue traverser quand même des périodes difficiles, des périodes de dépression dont elle remontait toujours, mais malgré tout je savais qu'elle avait une fragilité, et je l'attribuais à cette vie conjugale pas très heureuse, et aussi elle avait des soucis de santé, voilà. Mais c'est en écrivant ce livre, en sachant maintenant vraiment ce qu'elle avait vécu, que j'ai compris qu'on revient jamais tout à fait d'une épreuve comme celle-là, et qu'elle était beaucoup plus profondément abîmée, au fond, que je ne l'avais compris. Pas abîmée dans sa personne morale ou affective. Elle était très généreuse et très chaleureuse, mais oui, on lui avait fait du mal.
Alors, c'est vrai qu'on aurait adoré que Jean et Ginette finissent leur vie ensemble, fassent des enfants et tout. Ça n'a pas été le cas. Par contre, vous avez retrouvé la famille de Jean Obermann.
Mais oui, ce livre, il a vraiment eu une bonne étoile. J'espère que c'est ma mère qui a veillé sur ce livre depuis le départ. Mais c'est vrai que je me suis attachée vraiment à retrouver soit les témoins, soit les descendants des témoins de toute l'histoire. Et je les ai tous retrouvés. Et je me souviens qu'à l'été 2021, j'avais déjà rendu la première version de mon manuscrit. Et j'ai envoyé un mail à mes filles en disant « Vous savez, j'ai vraiment retrouvé tout le monde. Il n'y a que ce petit Obermann qui continue à m'échapper. » Et je me suis dit « Allez, je me donne une dernière chance. » Et toute la, enfin une partie de la nuit, soyons honnêtes, j'ai envoyé des messages sur tous les réseaux sociaux auxquels je pouvais penser. C'est pas un exercice dont je suis très familière, mais voilà, j'ai fait défiler des centaines d'Obermann en France, en Israël, aux États-Unis, et j'ai envoyé le même message à tous ceux dont la petite présentation me laissait à penser qu'il y avait un lien avec la France. Donc je disais, voilà, je recherche l'histoire de la famille Obermann. Le père s'appelait, les parents c'était Joseph et Esther, et les enfants Jean, Marcel et Hélène. Et le lendemain matin à 6h, j'avais un message d'un jeune homme, Manuel Obermann, qui me disait « Je suis le neveu de Jean, je vis en Israël, mais je suis de passage à Paris pour 3 jours ». Et je vous propose qu'on se retrouve demain au cimetière juif de Bagneux. Et voilà comment j'ai fait la connaissance de la famille Obermann, et particulièrement de sa fille, de la fille unique de Jean, une femme magnifique qui, dès que je l'ai eue au téléphone et que je commençais à lui expliquer un peu le pourquoi de mon appel, m'a dit « Oh, j'ai cru que vous allez m'annoncer que vous étiez ma sœur !» Ce qui aurait pu avoir lieu. Et en fait, on a noué, elle et moi, un lien incroyable et une joie incroyable à faire revivre nos parents respectifs, mais enfin nos parents dans toute la fraîcheur de l'histoire d'amour de leurs 18 ans. Elle aurait très bien pu m'envoyer balader, si j'ose dire, en me disant « Écoutez, c'est mon père, alors vous changez les noms, vous ne vous mêlez pas des histoires de ma famille », tout le contraire. Et elle m'a livré vraiment des trésors sur cette histoire. Et qui plus est, quand donc j'ai beaucoup enrichi mon manuscrit, et puis je vais envoyer à Odile Obermann, toutes les pages qui concernaient son père, en lui disant « Écoute, s'il y a quelque chose qui te gêne, s'il y a quelque chose voilà, que tu préfères que je ne dise pas ou je me suis trompée, voilà, dis-moi, parce que je ne voulais surtout pas qu'elle se sente trahie. » Et elle l'a lu, et elle m'a dit « Écoute, c'est comme si tu l'avais toujours connue. » J'avais gagné le gros lot.
Donc la merveilleuse, enfin, merveilleuse et terrible histoire de Ginette et de Jean, elle aurait pu inspirer, elle pourrait inspirer un roman graphique. Pascal Brisson.
J'espère, peut-être.
Oui, oui, oui. On en parlait tout à l'heure. Parce que vous, le travail de mémoire, vous le poursuivez depuis votre premier roman graphique, Simone Veil, L'Immortel, puis Beate et Serge Klarsfeld, Un combat contre l'oubli, et maintenant Simone Veil et ses sœurs, illustré par Stéphane Le Mardelet et publié à la boîte à bulles. Comment vous est venue l'idée de ce roman graphique ?
Alors bonjour à tous, j'étais très ému par votre témoignage. Alors j'ai eu la chance d'être élevé par mes grands-parents. J'ai une grand-mère aussi qui était dans la résistance à Reims, qui était dans le réseau Libération Nord, et j'avais un grand-père...
Libération Sud.
Ah bah, voyez. Et mon grand-père était dans la deuxième DB, il avait fait la libération de Paris et de Colmar. Donc autant vous dire que j'ai été élevé dans la transmission. Et dans la bande dessinée, on commence toujours par des albums classiques, sauf qu'à un moment donné, alors je suis dessinateur et scénariste, sauf qu'à un moment donné, on a envie aussi de mettre son service pour les autres, et notamment pour les jeunes. J'ai toujours été, on va dire, dans la transmission, le devoir de mémoire. Et un jour, on est en 2012, je suis au Panthéon, et je voulais voir Jean Moulin, enfin Aimé Césaire, Victor Hugo, et je me suis dit, bon sang, s'il y avait une personne à mettre dans ces lieux-là, encore vivant, ce serait qui ? J'ai pensé à Simone Veil. Et comme j'ai l'habitude de rencontrer les personnalités sur lesquelles je fais les biopics, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui connaissait Simone Veil, ce qui fait qu'une semaine après, j'ai été reçu chez elle. Et là, l'aventure est partie. J'ai eu la chance, sur 3 ans, de la rencontrer 3 fois. Donc, le premier roman graphique, c'était Simone Veil, l'Immortel, qui parlait essentiellement de Simone Veil, de ses combats et plus notamment de l'IVG. Après ce livre, alors Simone Veil, malheureusement, est décédée pendant l'ouvrage. Elle a juste eu le temps de voir les 12 premières pages. Ensuite, je voulais rester dans la même veine. J'ai eu la chance de connaître aussi Beate et Serge Klarsfeld, un couple formidable, uni dans l'amour, enfin... un couple qui me transcende. Enfin, quand je vois Béat et Serge, j'ai l'impression de voir ma femme et moi. Voilà.
Et, c'est beau.
Voilà, et ça c'est et ma femme est là-bas. Et donc, bah, j'ai travaillé 6 mois avec eux et ça a donné un livre. Et ensuite, j'ai rencontré Dominique Missica, qui est une amie, qui est une historienne aussi, qui avait sorti un livre en 2018, Simone Veil et ses sœurs. J'ai trouvé que son livre était vraiment très poignant, émouvant, parce qu'en plus, il était très complémentaire par rapport à mon autre roman graphique. J'ai mis tout le monde en relation avec l'éditeur. On est parti sur l'adaptation et Simone et ses sœurs est paru il y a à peu près un mois. Voilà.
Alors donc, on connaît mal l'histoire de la famille de Simone Veil, la famille de Jacob. C'est une histoire qui commence dans l'insouciance à Nice. On voit des belles images de cette période et se poursuivra dans la tragédie puisque la famille sera dispersée par la guerre. Simone Veil et deux de ses sœurs, Madeleine et Denise, iront à Auschwitz Madeleine et Simone, désolé.
Et
on pourrait dire que la plus résistante de toutes, c'est Denise, l'aînée qui s'engage dans la résistance en 1942.
Oui, alors c'est vrai que le destin des trois sœurs Jacob, hein, c'est à la fois exceptionnel et tragique. Alors j'oublie pas Jean, parce que c'était le seul garçon de la famille. D'ailleurs, quand je l'avais rencontré, Simone Veil, en 2012, elle parlait de son frère Jean, le fantôme, parce qu'il faut savoir que son frère était un passionné de photographie. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a les seules photos de Simone et de ses sœurs. Mais lui, il n'était jamais sur les photos, puisqu'il prenait les photos. Donc ses souvenirs de son frère se sont estopés au fil du temps. Pour revenir aux sœurs, oui, alors Simone déjà était une petite rebelle, hein. C'était déjà à 15-16 ans, c'était quelqu'un qui était assez rebelle, mais il faut savoir, je pense que ça vient de l'éducation, parce que Denise, alors dans l'ordre des sœurs, il y avait Madeleine qui était la plus grande, elle avait 20 ans, donc on est en 43, on est à Nice, ensuite il y avait Denise qui avait 19 ans et Simone qui avait 15 ans. Madeleine et Simone étaient plus du côté de la maman, Yvonne, alors que Denise était plus du côté du papa, qui était un ancien poilu, qui était un républicain avéré. Et dès 43, elle est partie à Lyon, entrée dans la résistance. Elle a été agent de liaison. Elle aussi s'occupait des messages jusqu'au jour où elle se fait arrêter, torturée par Klaus Barbie, envoyée donc à la prison de Montluc à Lyon, et puis envoyée à Ravensbrück, au camp des femmes. Et ce qui était intéressant, c'est que dans ce livre, de cette BD, c'est la première fois où on traite la déportation, les différentes déportations. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, Madeleine et Denis et Simone ont été déportées juives à Auschwitz, donc déportation raciale, alors que Denise était déportée résistante à Ravensbrück. Et en 1945, quand les trois sœurs se retrouvent, elles ne parlent plus du tout le même langage. Il y a une cassure, parce que Denise ne comprendra pas la souffrance qu'ont vécu Simone et Madeleine à Auschwitz, alors que Denise ira... Moi, Ravensbrück, j'ai pas trop de mauvais souvenirs. Les seuls mauvais souvenirs, c'était quand j'ai été torturé par Barbie. Et en fait, toute leur vie, ce sera de défendre et de leur propre déportation. Madeleine, qui est la plus grande, mourra en 52 d'un accident de voiture. Denise mourra en 2013, Simone en 2017. Alors les deux sœurs, jusqu'à leur fin de leur vie, se battront pour défendre leur propre déportation.
Oui, parce qu'en fait, elles ne sont pas accueillies de la même façon non plus en France. Hein.
Tout à fait.
Voilà, c'est ça.
Oui, parce que quand Simone et Madeleine reviennent en France, on a tendance à vouloir les cacher parce qu'elles sont juives. C'est vrai que dans la résistance, il valait mieux parler des femmes résistantes arrêtées et déportées avec les armes à la main que déportées juives raciales. Donc voilà, c'est tout l'intérêt du livre.
Alors, dans votre roman, Simone et Denise se réunissent bien plus tard dans la maison de campagne de Simone, juste toutes les deux. Ça a vraiment existé, ces moments-là ?
Alors oui, il faut toujours une petite histoire quand même, parce que c'est vrai que quand on reprend un livre historique, faut pas, parce que je veux aussi que ça s'adresse aux jeunes. Mais j'avais lu dans un article que Simone et Denis se réunissaient à Cambremer, qui était la maison secondaire de Simone et d'Antoine Veil, en Normandie. Et c'était généralement le dimanche matin. Et elles se réunissaient tous les dimanches matins dans cette maison, sans les maris et sans les enfants. Et je vous le donne en mille, de quoi elle parlait, bah de la déportation. Et souvent, ça se fruitait un peu.
Oui, c'est ça. Elles avaient aussi à cœur de perpétuer le travail de mémoire.
Tout à fait.
Ouais, ouais. Alors, ça vraiment raconte bien le basculement d'une famille. Il y a un vrai travail sur la couleur dans le roman. Chaque période, Les jours heureux, la tragédie de la déportation, la période plus contemporaine sont traités avec des couleurs différentes.
Oui, parce que c'est vrai que c'est quand même un livre où il y a quand même beaucoup de tragédies, hein, même si c'est un... Denise et Simone ont eu un destin aussi exceptionnel, parce qu'il faut vous dire que Denise, qui s'est mariée en 50 avec Alain Vernet, qui est un grand résistant, est devenue Denise Vernet, et elle a été très longtemps la mascotte du général de Gaulle pour parler justement de la femme résistante. Et c'était une femme importante et elle a été un petit peu dans l'ombre, fortement méconnue malheureusement, parce que c'était aussi une grande dame, par Simone Veil, qui était devenue ministre de la Santé, qui, on connaît tout son parcours. Et c'était ces deux parcours, et c'est ça qui est extraordinaire, je trouve. J'ai pas connu Denise, malheureusement, mais on m'en a beaucoup, beaucoup parlé. Et ces deux sœurs, toute leur vie... Alors, ce qui était assez marrant, c'est que, par exemple, Denise, quand elle passait un article pour défendre la déportation résistante, dès le lendemain, Simone Veil appelait la rédaction en disant « Moi, je veux passer un article sur la déportation juive. » Et ça a été ça toute leur vie.
Alors, vous, Julie Héraclès, vous êtes mise avec talent dans la peau d'un personnage aux antipodes des autres, on va dire. Elle a choisi, elle, le camp de la collaboration, la tondue de Chartres. Dans votre livre, « Vous ne connaissez rien de moi », aux éditions Jean-Claude Lassette. Alors, votre livre pose pas mal de questions, mais c'est une œuvre d'imagination. C'est l'histoire de cette Simone Touzeau qui a collaboré avec les Allemands sous l'occupation, une jeune femme de 23 ans que vous faites parler à la première personne en spécifiant en avant-propos de dire que si ce livre s'inspire de faits réels, il n'est en aucun cas une reconstitution historique. C'est une œuvre d'imagination. Elle a d'ailleurs dans le roman un autre nom, cette Simone Touzeau.
Oui, alors bonjour à tous. Donc c'est vrai que mon roman est aux antipodes de vos œuvres. Moi, j'ai choisi de raconter l'histoire d'une femme qui a collaboré pendant l'occupation. Donc je suis partie d'une photo, d'une célèbre photo de Robert Capa qui a été prise lors de la libération de Chartres le 16 août 1944. Cette photo, elle m'a toujours interrogée, elle m'a toujours interpellée. En fait, je suis née à Chartres et je la connais depuis toujours. En 2011, un livre d'historien est paru sur cette photo pour essayer de retracer le parcours de cette femme. Et là, j'ai appris que, contrairement à ce que je croyais, cette femme n'avait pas été seulement coupable d'avoir eu un enfant avec un Allemand, mais elle avait aussi collaboré, elle avait admiré le nazisme. Et la question que je me suis posée en lisant ce livre, finalement, c'est pourquoi ce choix, pourquoi ces choix funestes? Qu'est-ce qui peut amener une jeune femme, une très jeune femme à cette époque-là, dans ce milieu-là, dans cette ville-là, à un moment choisir non pas de résister, mais de s'engager sciemment dans la collaboration et le travail pour l'occupant? Et finalement, l'enquête historique sur Simone Touzeau ne me permettait pas de répondre à cette question, dans le sens où il y a beaucoup d'éléments sur le passé de cette femme qu'on ne connaîtra jamais. Ce n'est pas un personnage historique. Donc, par exemple, son enfance, son adolescence, on les connaît, mais uniquement en filigrane. Et à ce moment-là, je me suis dit que le roman, la fiction, pouvait être un bon moyen pour explorer en fait ce parcours. Donc, ce que j'ai fait, en fait, j'ai conservé tous les éléments que l'on connaît, tous les éléments réels, je les ai conservés, et j'ai ajouté des éléments de fiction en ayant toujours à cœur d'être le plus plausible possible par rapport à l'époque, par rapport à la ville et par rapport à ce que l'on connaît de cette femme.
D'ailleurs, elle a un autre nom dans le livre, hein, Simone.
Oui, j'ai choisi de l'appeler Simone Grivise et non Touzeau, puisque justement... y a une grande part de fiction, c'est un roman.
Alors c'est vrai qu'en fait, en voyant la photo de Capa, à la base, on a une espèce de compassion pour cette femme qui passe avec un enfant dans les bras, tendu, au milieu de gens qui se moquent d'elle. Et puis après, on se dit, mince, quand on a connaissance du document historique... et de la réalité de sa collaboration, qui était quand même une collaboration très active, on change un peu de braquet.
Oui, hein, Alors, c'est vrai que cette photo, en fait, elle est devenue le symbole de l'épuration sauvage. Une femme avec son enfant dans les bras, qui est conspuée par la foule. Évidemment, la première... on ne peut ressentir que de l'empathie, en fait, de prime abord. Mais finalement, après, évidemment, quand on connaît l'histoire... C'est beaucoup plus ambivalent, elle est éminemment coupable. Voilà, et du coup, le titre que nous avons choisi avec mon éditrice, Vous ne connaissez rien de moi, c'est justement pour montrer que la photo est déjà une interprétation du réel, en fait. Donc, Vous ne connaissez rien de moi. Au premier abord, on peut éprouver de l'empathie pour ces femmes qui ont été tondues à la libération. Mais cette femme-là en particulier, elle a un destin singulier. Elle n'est pas coupable uniquement d'avoir été amoureuse et d'avoir eu un enfant avec un Allemand. Elle a également collaboré. Et c'est vrai que son destin est singulier dans le sens où, finalement, la plupart des femmes qui ont été tondues à la libération ont été tondues parce qu'elles avaient eu des relations avec des Allemands. Et elle, c'est particulier. Elle a collaboré.
Alors, vous mettez dans sa peau, hein, dans le roman. Vous lui inventez un passé, une amie juive, une humiliation sociale, le sauvetage de résistants. Vous l'humanisez en quelque sorte. Je sais que cela vous a été reproché, mais quel était votre dessein en faisant ça?
Quel était votre
dessein, oui.
En fait, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était de retracer son parcours. Donc, oui, je lui ai inventé des épisodes de vie où elle a souffert, où elle a été amoureuse. Quelque part, je lui ai redonné une humanité, mais pas dans le sens positif, en fait. Simplement, je l'ai renvoyée à sa condition d'être humain. Donc oui, c'est une femme humaine qui a souffert, qui a été amoureuse et qui a commis aussi des actes impardonnables. Mais finalement, la renvoyer à sa condition d'être humain, ce n'est pas pour la dédouaner, c'est simplement pour dire que le mal... les actes abominables sont commis aussi par des gens ordinaires et c'est l'idée de dire soyons vigilants, interrogeons-nous justement sur l'ensemble des facteurs, des circonstances, des convictions qui peuvent amener des jeunes à faire ces choix-là. Et voilà, et puis je fais souvent le parallèle avec aujourd'hui. Enfin, si certains jeunes peuvent être attirés par des idéologies extrémistes, c'est aussi parce qu'il y a ce sentiment d'humiliation, d'être laissé sur le bas-côté de la route. Et ma protagoniste, c'est ça aussi. En fait, c'est une conjonction de circonstances et de convictions qui lui sont propres, qui font que, un jour, elle fait ses choix funestes.
Vous avez fait des recherches autour d'elle et... C'est ça. Donc
Oui. Alors, il y a un livre vraiment qui a été ma principale source d'inspiration. C'est donc le livre qui a été écrit par des historiens qui s'appelle « La tondue 1944-1947 ». Donc, pour les personnes qui sont intéressées pour aller plus loin et savoir, avoir vraiment la reconstitution historique, je vous invite à lire cet ouvrage. Et après, ce qui m'importait, en fait, dans mon roman, c'était aussi d'immerger mon lecteur dans une époque... dans une ville, une petite ville de province, très ancrée sur ses convictions bourgeoises, ses convictions religieuses. Donc j'ai regardé beaucoup de films. Un film qui m'a beaucoup marquée, c'est Une affaire de femme, de Claude Chabrol, que j'ai regardé vraiment plusieurs fois. Et puis j'ai lu des livres qui ont été écrits à cette époque. Par exemple, Journal à quatre mains, de Benoît et Flora Groult, qui est un journal de l'occupation écrit par deux jeunes filles. Et qui m'a donné beaucoup d'éléments, en fait, de détails sur la vie quotidienne à cette époque-là.
Alors, il y a une alternance de temporalité entre la journée du 16 août 1944, le jour de la photo, et tous les éléments qui la précèdent. Hein, c'est ça, vous avez construit le roman comme ça. Hein.
Oui, en fait, j'ai d'abord écrit cette journée du 16 août 1944. Je voulais l'écrire vraiment dans ses moindres détails, parce que finalement, c'est cette journée qu'on connaît le mieux. On a les photos, il y a eu deux photographes et ça a été retranscrit par plusieurs témoignages. Donc je suis vraiment partie de cette journée. Ça commence à l'aube, elle est arrêtée avec ses parents, elle laisse sa fille chez elle, elle va être amenée, elle ne sait pas où elle va être amenée, elle va être amenée à la préfecture et là en fait elle ne sait pas ce qu'elle va devenir, est-ce qu'elle va être tuée, est-ce qu'elle va être... c'est la peur totale. Donc j'ai essayé de vraiment retranscrire cette journée terrible. Après avoir écrit cette journée, je me suis intéressée à tous les événements qui l'ont précédée, tous les événements antérieurs, et je les ai intercalés, en fait. Donc le roman commence à l'aube du 16 août 1944 et se termine au moment où la photo de Robert Capa a été prise. Et entre, donc on a... une sorte de fil rouge avec cette journée du 16 août 44 et entre, on a tous les événements qui précèdent.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Voilà. Oui.
Oui. Alors, en fait, j'invite toujours mes lecteurs, s'ils veulent aller plus loin, justement, à lire l'enquête historique pour savoir quels ont été, quels sont les événements réels. Voilà. Après, je dis toujours que ce que j'ai conservé, c'est notamment tous les actes coupables, en fait, qu'elle a fait. Ça, je l'ai conservé, notamment le fait qu'elle ait adhéré au PPF, qui était le parti le plus fasciste à l'époque, et le fait qu'elle ait été suspectée d'avoir dénoncé ses voisins. Donc ça, c'est la réalité. Et après, tout ce que j'ai inventé, en fait, c'est son enfance, son adolescence, sa psychologie, ses émotions. Ça, on ne le connaîtra jamais. Donc c'est là où est intervenue la part de fiction.
Nicole, s'il vous plaît, lorsque vous avez rencontré mademoiselle ou madame Obermann, la fille de Jean, est-ce que vous avez pu rentrer en contact avec son père? Ou est-ce qu'il vivait toujours ou...
Non, en fait, je le raconte dans le livre, mon seul face-à-face avec lui, ça a été au cimetière juif de Bagneux, où il repose depuis 2012. Mais c'est vrai qu'Odile, sa fille, m'a raconté la suite de sa vie, puisque moi, d'une certaine manière, je l'avais quitté à 21 ou 22 ans. Et ça a été un personnage absolument hors norme, extrêmement flamboyant, joueur, gagnant des fortunes, perdant des fortunes, chroniquement infidèle et chroniquement séduisant. Et en fait, je crois que j'avais pas envie de le rencontrer, j'avais pas envie de rencontrer un vieux monsieur très loin de ce personnage au fond mythique qu'il était resté pour ma mère, pour moi, pour ma sœur. Et j'ai aimé le garder dans la flamboyance de sa jeunesse. Et c'est vrai que la rencontre avec sa fille a été une émotion incroyable, et ça le demeure, parce qu'on est vraiment devenus très amis. On continue à échanger. C'est une femme magnifique et qui certainement ressemble beaucoup à son père, mais non, je ne l'ai pas rencontré, le père.
Madame Héraclès, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous avez eu comme réaction donc, par rapport à votre livre, parce qu'on voit finalement il y a toujours de la peine à parler de cette époque d'une manière équilibrée. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, où tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il y a beaucoup de gris, il y a le mystère des rencontres, il y a le mystère des... voilà. Et même aujourd'hui, quelles sont les réactions?
Alors, c'est vrai que je me suis rendu compte, alors je le savais, mais c'est une période extrêmement sensible, en fait, et qui suscite beaucoup de débats. Donc c'est vrai que mon livre, en exposant le point de vue, finalement, d'une collaboratrice, c'est un sujet qui a été peu exploré en littérature. Il y a eu un film de Louis Malle, La Combe Lucien, qui avait déjà, à l'époque, suscité une polémique. Parce que c'est difficile, finalement, d'explorer ce point de vue-là. Ça suscite toujours des réactions qui peuvent être épidermiques. Alors, moi, je dis toujours, mais tant mieux, en fait, tant mieux que cette période fasse parler, qu'on continue à débattre et finalement, à ne jamais oublier ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que mon roman, finalement, c'est un roman sur la nuance aussi.
Et justement, qu'est-ce que vous pensez de cette...
Moi, j'aime beaucoup. Non, je pensais à un autre projet, parce que je suis en train de monter un projet, justement. Et je suis en train de monter un projet sur l'idéologie nazie, c'est-à-dire comment un nazi a pu arriver à se comporter de cette sorte. Parce qu'en discutant avec Serge Klarsfeld, je lui avais demandé, mais comment comprendre ces gens-là? Et puis il me disait, mais comment comprendre l'incompréhensible? Et j'ai cherché, j'ai travaillé, parce que chaque livre me prend quand même 3 ans de travail. Et je voulais comprendre comment on devenait nazi. Et en fin de compte, ce sont des gens totalement ordinaires. C'est-à-dire que ma grand-mère me disait aussi de faire attention, de ne pas amalgamer le soldat allemand et le soldat nazi. Ça, déjà, d'entrée, ça a toujours été. Et ensuite, elle me faisait comprendre que, à quelque part, je pense que ça devait être dans le contexte de l'époque, que le nazi, s'il n'acceptait pas de faire ce qu'il avait fait, on l'exterminait avec toute sa famille. Or, en recherchant, en lisant des livres et puis en parlant avec Serge Klarsfeld, je me suis rendu compte que le nazi, en fin de compte, dès le départ, il avait le choix, en fait, de faire ce qu'il avait le choix. Il n'était pas menacé, il n'y avait pas de représailles. Et c'est là, je suis en train de creuser donc, ce projet en me disant, mais pourquoi? Voilà. Et je peux comprendre. Et alors, quand je vous parlais de la Combe Lucien, waouh, c'est vrai que ce film m'a bouleversé. Je l'ai vu petit, comme Nuit et brouillard, je l'ai vu en CM2. Donc, pour le coup, ce sont des films qui marquent et qui... Mais je peux comprendre, en tout cas. C'est un point de vue très intéressant, je trouve.
Merci à tous les trois.
Merci beaucoup.
Nicole Bacharan, pour la plus résistante de toutes, vous signerez votre livre sur le stand des éditions Stock. Pascal Bresson, sur celui des éditions La Boîte à Bulles. Et Julie Héraclès, sur celui des éditions Jean-Claude Lattès. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Merci bien.